Ce matin, on veut continuer une série de prédications. On a commencé la semaine dernière. Si vous n'étiez pas là, vous aimeriez l'écouter. Elle va être sur le site Internet qui est de notre site de l'Église. La prédication va être là. Vous pouvez aller l'écouter. En fait, le titre que l'on a donné pour cette série de deux prédications, alléluia, ça va s'appeler ou ça s'appelle « Pas de niaisage ». OK? Alors, pas de niaisage. Et lorsqu'on fait référence à ça, au niveau de pas de niaisage, c'est dans la dimension de ne pas perdre notre temps, de ne pas s'occuper de futilité. C'est tellement facile dans notre monde de perdre notre temps. C'est tellement facile, même si le temps va tellement rapidement, bien souvent, il y a du temps perdu. Bien souvent, on est là à s'occuper de toutes sortes de choses qui est peut-être pas la nécessité même ou nos priorités et tout ça, ou encore pas de niaisage, ça a la dimension de procrastination ou lenteur à faire les choses qui devraient être faites. La semaine dernière, on a regardé ensemble pas de niaisage en ce qui concerne les choses du passé. Alors, pour pas traîner le passé, on a partagé ensemble dans la dimension de pas, que des fois dans nos vies, dans ma pensée, c'était ça, c'était l'image. C'était, il y a tellement de choses qui nous hameçonnent à l'intérieur de nos vies, qui s'accrochent à l'intérieur de nos vies, qu'on traîne sans s'en apercevoir, des pensées qui viennent des choses, certaines choses qu'on a entendues au travail, et ça vient, sans s'en apercevoir, ça s'accroche après nous. Puis on traîne, on tire des choses, et on ne s'aperçoit pas qu'on traîne et on tire toutes ces choses-là. Et pourtant, il y a des moments dans nos vies où on doit prendre conscience de cela, de s'arrêter et de réaliser qu'il y a des choses qu'on doit désabsonner, que l'on doit enlever et afin d'être capable de saisir ce que Dieu a pour nous. Et aujourd'hui, lorsque je vais parler en sous-titre, c'est bien sûr de ne pas de niaisage pour au niveau de notre avenir, d'être capable de saisir pour connaître la chose nouvelle et bien sûr pour saisir la bonne chose de ce que Dieu a pour nous. Bien sûr, on a besoin de saisir ce qui est en avant. Dans Isaïe, chapitre 43, verset 18, c'est notre verset de base, nos versets de base qui dit « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. » Et ce matin, c'est le verset 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Lorsque ce texte-là a été mentionné, ou que Dieu va dire cette parole-là au peuple d'Israël, bien sûr, on a besoin de saisir tout le contexte dans Isaïe, chapitre 1, le verset 6, et tout le reste, ça nous dit, par exemple, au verset 7, « Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. » C'est la situation dans laquelle le peuple de Dieu se trouvait à ce moment-là. Et le Seigneur est en train, dans le chapitre 43, le verset 18, est en train d'amener vers quelque chose, une vision, un désir de ce que Dieu veut et a pour eux. Lorsqu'on regarde 2020, on a besoin de saisir ce que Dieu a besoin, ou plutôt veut faire à l'intérieur de nos vies. 2020 doit être un temps où il doit, avec notre temps, on ne doit pas perdre notre temps. Je pense qu'en 2020, il ne doit pas y avoir du niaisage avec le temps que Dieu nous donne. Dans Éphésiens, chapitre 5, le verset 15, ça dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Ce texte nous amène à comprendre et à réaliser les temps dans lesquels on est, les moments dans lesquels on se retrouve à l'intérieur de nos vies, de bien se conduire, de bien faire les choses, de réaliser que le temps est des temps que Dieu nous donne, c'est des temps précieux. On a besoin de saisir le temps de Dieu et de comprendre le temps dans lequel Dieu nous place. On ne doit pas devancer le temps de Dieu, de ce que Dieu veut faire à l'intérieur de nos vies. On ne doit pas devancer, la chair ne doit pas, ou notre propre volonté. où ce qui est humain ne doit pas nous amener à passer aux côtés du temps de Dieu ou encore au détriment. L'être humain, le temps humain ne devrait pas nous donner de passer aux côtés du temps de Dieu. Mais au contraire, on doit être capable de vivre et de saisir le temps que Dieu nous donne. En même temps, nous devrions pas perdre, alléluia, ou encore remettre à demain. Je pense que des fois, ou humainement parlant, ce qui nous fait remettre à demain, c'est notre chair. Parce qu'on ne veut pas adresser des choses que Dieu veut faire dans nos vies. Parce qu'on ne veut pas accomplir ce que le Seigneur voudrait qu'on accomplisse. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 2, ça dit, alléluia, voici maintenant le jour du salut. Ça dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le bon temps. Pour que Dieu accomplisse les choses, il y a des temps, on ne veut pas devancer le temps, on ne veut pas précipiter le temps, on ne veut pas faire les choses avant le temps de Dieu. Mais en même temps, on ne doit pas être de ceux qui remettent à demain ce que Dieu veut faire aujourd'hui. On a besoin de comprendre l'importance de nos décisions à l'intérieur de nos vies. De l'importance des choix qui se prêtent devant nous, les décisions pour à l'intérieur de cette nouvelle année, pour cette nouvelle année, pour le futur et jusqu'au retour de Jésus-Christ. Quelqu'un dit ceci, chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour, quelqu'un a pris une décision courageuse. Et je crois que cela est vrai, alléluia, aussi dans l'Église de Dieu. Je crois que cela est aussi vrai, alléluia, pour les enfants de Dieu. Je ne pense pas que notre vie est une entreprise. Je ne pense pas que notre relation avec Dieu est faite comme une entreprise. Mais je crois sincèrement, alléluia, qu'il y a des hommes et des femmes dans la parole de Dieu, que Dieu les a amenés à prendre des décisions courageuses. Et cela les a amenés à vivre dans le temps dans lequel Dieu les plaçait. Dans lesquels Dieu leur donnait d'accomplir ou de faire à l'intérieur de leur vie. Nous avons besoin de réaliser que les temps dans lesquels Dieu nous place, on veut prendre les bonnes décisions pour vivre pleinement ce que Dieu a mis en place. En fait, est-ce qu'il ne serait pas temps de vivre dans l'urgence? Est-ce qu'il ne serait pas temps le temps de vivre dans l'urgence? Lorsque je parle de vivre dans l'urgence, je ne parle pas de courir de gauche à droite. Je ne parle pas de s'inquiéter de notre futur. Je ne parle pas de vivre dans la peur. Mais alléluia, je parle de réaliser du temps dans lequel Dieu nous a placés. De réaliser et de comprendre l'importance de ce que Dieu nous demande de faire ou d'être à l'intérieur de leur vie. Je pense que dans les années dans lesquelles on vit, il ne devrait pas y avoir de temps, et ça c'est humain, mais on doit choisir, décider, alléluia, de ne pas s'inquiéter. Je pense qu'il est le temps de ne plus vivre dans la peur. Je pense qu'il est le temps de ne plus vivre, alléluia, dans toute l'agitation de nos vies, mais je crois qu'au contraire, il est le temps de vivre dans la paix de Dieu, de vivre dans la joie de Dieu, de vivre dans la tranquillité de Dieu. De réaliser, alléluia, ce que Dieu veut déployer à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs, qu'il est le temps de Dieu de vivre dans sa délivrance, qu'il est le temps de Dieu, alléluia, de vivre dans la plénitude de ce que Dieu nous appelle à vivre. En fait, l'urgence, c'est le caractère de ce qui est urgent, de ce qui devrait souffrir d'aucun retard à l'intérieur de nos vies. Quelqu'un dit ceci, l'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. L'essentiel est souvent menacé par ce qui est insignifiant. On doit réaliser l'urgence et de vivre dans ce que Dieu veut nous appeler. Je vais parler de trois choses ce matin dans lesquelles on devrait vivre dans le temps et comprendre les temps dans lesquels on est pour y vivre pleinement. Premièrement, je vais parler de nos relations. De l'importance de vivre des relations, alléluia, et de vivre notre vie dans nos relations avec urgence. Ce matin, je ne veux pas parler des chiens et des chats. Peut-être que c'est une bonne chose, c'est bien d'avoir un chien, c'est bien d'avoir un chat, d'avoir un peu importe l'animal de compagnie que vous avez, là. Mais j'aimerais nous dire que cela n'a jamais autant de valeur devant Dieu, alléluia, que l'être humain en soi, ou que la personne même de Dieu. Je pense que cela, tout ce qui est de relation, alléluia, par rapport à ce qui est là, lorsque je regarde Adam et Ève dans la parole, il y avait tous les animaux qu'ils pouvaient avoir autour d'eux, mais pourtant, Adam avait besoin d'Ève. Pourtant, lorsqu'il a vu Ève, pour la première fois, il a dit, « Voici maintenant celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Un être à ma ressemblance. » On doit comprendre l'importance et l'urgence dans nos relations. Premièrement, dans notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu. C'est l'essentiel de notre relation à l'intérieur de notre vie. Dieu a créé Adam et Ève, bien sûr, pour qu'ils puissent bénéficier du jardin d'Éden. De bénéficier de tous les animaux de la terre. Mais je vais vous dire que l'un des buts pour lesquels Adam et Ève ont été créés, c'est pour une relation avec Dieu. C'était pour une communion personnelle et intime. Il est temps peut-être de revenir dans cette dimension-là à l'intérieur de nos vies par rapport à cette relation-là, de ce qui est important. C'est tellement facile de se faire voler nos temps, notre communion et notre relation avec le Seigneur. C'est tellement facile d'être pris par toutes sortes de responsabilités, d'avoir toutes sortes de choses qui prennent place et que tranquillement, notre relation avec Dieu en perd sa vitalité. On commence à laisser entrer des choses et sans s'en apercevoir, notre relation avec Dieu en souffre. On doit prendre du temps et de là, de notre communion avec Dieu va découler majoritairement tout le reste à l'intérieur de nos vies. Ne permettez à rien ou à qui que ce soit de vous empêcher ou de briser ou de vous amener à négliger votre relation avec le Seigneur, de votre communion avec Dieu, de prendre du temps pour lire la parole, de prendre du temps, alléluia, pour ouvrir nos cœurs dans la présence de Dieu, pour le louanger, pour l'adorer, pour l'exalter, de juste méditer dans sa présence, de juste prendre un temps d'arrêt. Dans toutes nos activités, des fois, on a l'impression que d'être arrêté dans la présence de Dieu, c'est du temps perdu. C'est probablement le temps le plus important. C'est probablement le temps le plus vital à l'intérieur de ta vie. Dans notre société, on valorise de prendre notre temps à tellement de choses, mais on entend peu ou pas parler de l'importance, alléluia, de valoriser le temps avec Dieu, de valoriser notre communion avec le Seigneur, de valoriser le temps où on va tout mettre de côté pour être capable de prendre du temps dans le jeûne et dans la prière, dans l'intercession pour nos familles, pour nos enfants, ou encore de juste s'arrêter devant Dieu et de permettre à la présence de Dieu de changer, de transformer nos vies et nos cœurs. L'importance de notre relation avec Dieu. Vivre dans cette urgence-là, cette soif-là, ce besoin-là de la présence de Dieu à l'intérieur de nos vies. Deuxième relation, je parlais des relations avec lesquelles on s'est engagé. Bien sûr, je parlais ici de relations familiales, de relations de conjoint ou conjointe, d'époux, d'épouse, de l'importance de vivre ces relations pleinement. Je vous dirais ceci, alléluia, on a besoin de vivre ces relations-là dans l'urgence dans laquelle Dieu nous appelle à vivre. De comprendre l'essentiel de ce que Dieu veut bâtir et de construire à l'intérieur de cette année 2020. Dieu est celui qui veut nous bénir. Dieu est celui qui veut nous unir. Le Seigneur est celui qui nous appelle à vivre cette relation-là saine et de construire dans cette relation-là comme Dieu nous appelle à le faire. Dans lequel Dieu veut faire une œuvre, veut nous amener à restaurer, à regagner ce temps-là, à racheter peut-être le temps. Peut-être que c'est le temps de ne plus avoir de niaisage dans nos relations de couple, de ne plus avoir de niaisage dans nos relations père-fils ou mère-fille ou enfant-parent ou parent et enfant. Peut-être que c'est le temps de construire ensemble, de bâtir dans ces relations à laquelle Dieu nous appelle et dit « Vive pleinement ». Troisième relation, relation avec le corps de Christ. Frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre l'importance de ce qu'est le corps de Christ, de comprendre la valeur du corps de Christ, de réaliser la valeur de la personne qui est assise aux côtés de toi. C'est peut-être pas un lien de sang, mais qui est le lien du sang de Jésus-Christ. Que c'est peut-être pas le lien charnel, le sang charnel, mais que c'est le lien du sang de Jésus-Christ. Je vais revenir sur un texte qu'on connaît tous majoritairement très bien. Dans Hébreux chapitre 10, verset 25. Peut-être allez-vous dire, pasteur, on le connaît presque par cœur. Mais j'aimerais nous amener une pensée à travers ce texte-là. Dans Hébreux 10, 25, ça dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Je vais vous dire ceci, si ça c'était vrai, si c'était important pour les disciples, quand je lis ce texte-là, si c'était important pour Pierre d'être chaque jour au temple avec le corps de Christ, si c'était important pour Jean d'être avec les disciples et les autres au temple pour se retrouver, d'être ensemble, si c'était important pour Paul d'aller de ville en ville, que ce soit avec les Philippiens, avec les Corinthiens et avec les autres, pour être capable de se réunir ensemble, de trouver du temps et de s'unir ensemble, si c'était vrai pour eux, ça dit, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour est encore plus proche pour nous qu'il l'était pour eux. Alors, si c'était nécessaire pour eux, ça devrait être aussi nécessaire pour nous. Un commentaire dit ceci, c'était aux yeux de l'auteur un mauvais signe quand les chrétiens abandonnaient leur assemblée pour se contenter de culte du temple, de la synagogue. Et là, ce qu'il est en train de dire, l'auteur, c'est se contenter de autre chose que le corps de Christ, que la relation avec Christ et son corps. C'est-à-dire, il n'était pas étonnant qu'il fasse suivre cette exhortation de la redoutable déclaration que se lit en Hébreux 10, 26. Et là, il dit ce que le texte, que l'auteur est en train de dire dans le verset 25. Et d'autant plus vrai, alléluia, de l'importance, il voyait l'importance que le corps soit ensemble, que le peuple de Dieu puisse s'édifier ensemble, puisse construire ensemble. Dans une autre traduction de la parole de vie 2017, ça dit ceci, « N'abandonnons pas nos assemblées comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns des autres, puisque... vous voyez le jour du Seigneur est proche. » En fait, il est en train de dire l'importance de s'édifier, de construire, de bâtir, de s'édifier les uns les autres, que le corps est là pour nous aider à aller jusqu'au bout. De l'importance d'être ensemble. J'aimerais vous dire, jeune famille dans cette église, que, alléluia, l'une des choses importantes dans votre vie devrait être l'église. Devrait être l'Église. Et lorsque je parle d'Église, je ne parle pas de bâtiment, mais je parle du corps. D'être ensemble, de se retrouver, de recevoir, d'être béni, d'être entouré, de recevoir comme vos enfants ce matin à l'éducation chrétienne. Est-ce que tout est parfait? Non. Je pourrais vous sortir à plusieurs endroits dans l'Église de Corinthe, dans l'Église des Philippiens et de d'autres églises dans le Nouveau Testament qui semblait avoir des problèmes sérieux, même doctrinalement. L'Église n'a jamais été parfaite. Est-ce que cela veut dire qu'on doit accepter? Non. Mais je pense qu'on a besoin de réaliser notre besoin des uns et des autres. Les jeunes hommes, les jeunes filles dans cette Église, il est important pour eux d'être capables de se retrouver ensemble, de s'édifier ensemble, de construire ensemble. D'autant que nous voyons s'approcher le jour. En fait, l'auteur amène la pensée de l'importance du corps, de l'importance de se retrouver avec le corps. Souvent, à l'intérieur de nos vies, dans cette relation-là, c'est quelque chose que l'on passe aux côtés pour toutes sortes de raisons. Je veux bien qu'on me comprenne ce matin. Je ne suis pas en train de dire que c'est un péché de ne pas être à l'Église. Je suis juste en train de dire que ce que le texte nous dit, c'est une riche bénédiction que d'en faire partie et d'y être ensemble. C'est un privilège que Dieu nous donne. C'est un honneur que d'être les uns avec les autres, avec nos frères et nos sœurs, de grandir, d'avancer, de bâtir ensemble, d'aller, d'entrer dans ce que Dieu a pour nous, d'élargir ce que Dieu veut accomplir à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Deuxième chose que nous devrions vivre dans un temps d'urgence, dans notre vision de l'éternité, dans notre vision de l'éternité. On a besoin de vivre nos vies comme si le retour de Christ était aujourd'hui, d'être prêt à l'intérieur de nos vies, de le faire, de vivre nos vies maintenant, alléluia, en fonction de se préparer. C'est le temps de se préparer au retour de Christ. Dans la parole de Dieu, alléluia, lorsqu'on regarde dans le texte de Matthieu 25 et le verset 10, il nous est parlé dans ce texte-là et les versets 20 suivants, des vierges sages et des vierges folles. Notre frère au groupe Connexion nous a parlé de l'importance du retour de Christ, de savoir, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des prophéties qui s'accomplissent présentement. Je pense que les temps dans lesquels nous sommes nous donnent de réaliser que c'est le temps de ne pas perdre notre temps, qu'il ne doit pas y avoir de niaisage dans notre préparation du retour de Christ, qu'il ne doit plus y avoir ou pas y avoir de niaisage dans le retour de Christ. En fait, j'ai choisi le titre de façon délibérée dans « pas de niaisage » et non « pas plus de niaisage ». Et la raison pour laquelle je n'ai pas donné comme titre « plus de niaisage », c'est parce que je n'ai pas dans ma pensée qu'on a fait du niaisage dans l'année 2019. Mais même si on ne l'a pas fait en 2019, je pense que nous devons réaliser que l'année 2020 qui est là, nous devons vivre nos vies dans notre préparation du retour du Seigneur. Dans Matthieu 25, verset 10, ça dit, « Pendant qu'elle allait en acheter, là, bien sûr, l'époux est à la porte, les choses sont là, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Et le verset 12 dit, « Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je vous ne connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Ce texte-là nous amène une pensée très claire de l'importance que lorsque Dieu viendra chercher son Église, il viendra chercher des gens, pas qui sont en train à ce moment-là, de se préparer, mais des gens qui seront prêts. Quand l'époux est arrivé et a dit d'entrer à la noce, c'est ceux qui étaient prêts d'entrer. C'est pas ceux qui devaient se préparer pour arriver. Je vais vous dire ceci. On a besoin d'être à l'heure. Si tu es en retard, je suis désolé, mais la porte va être fermée. Ces vierges folles-là ont été en retard et elles n'ont pas entré. Nous avons besoin de se mettre à l'heure. Et l'heure, c'est pas toi qui vas la choisir, puis c'est pas moi. Ma responsabilité à moi, et de me préparer. Votre responsabilité à vous, c'est que lorsque le temps viendra, c'est d'être prêt. Je vais vous défier et me défier aujourd'hui dans la pensée de l'importance de ce qui est là. Dans Matthieu chapitre 24, verset 42, ça dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » On a besoin de voir les signes dans lesquels on est. Je pense que plein de choses qui sont autour de nous sont des signes bibliques et clairs qu'en tant que chrétien, on doit voir. Notre frère en a partagé mercredi ensemble. Mais on a besoin de réaliser les temps dans lesquels on est. Et il est maintenant le temps de se préparer. Matthieu 26, 40, ça dit, alléluia, Jésus parle. Et lorsque j'avais cette pensée, Jésus va amener les disciples alors qu'il parle dans le moment-là, pas du retour de son deuxième retour, mais le fait qu'ils vont venir et vont le prendre. Et Jésus va amener les disciples dans le jardin de Gethsémané et le temps dans l'heure à laquelle Jésus les appelle de veiller, c'est pour être prêt lorsque les soldats arriveront. Et dans la suite des choses, Et Jésus va dire ceci, alléluia, dans le verset Matthieu 26, 40. Ça dit, « Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Verset 42 et les suivants, ça dit que Jésus s'est encore éloigné à ce moment-là. Et le verset 45 dit ceci, « Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Et là, il dit ceci, « Ce n'est plus le temps de veiller, c'est le temps d'aller. » Il y avait un temps pour veiller et il y a un temps pour aller. Il dit, « Levez-vous, allons, voici celui qui me livre, approche. » Il y a des moments dans nos vies, alléluia, et on a besoin de saisir. Vous savez ceci, lorsqu'il est arrivé le temps avec le déluge, je pense qu'il est une image très claire du retour de Jésus-Christ. Tout le monde a eu l'opportunité de se repentir. Noé a prêché haut et fort aux gens de se préparer au déluge. Lorsque le déluge est arrivé, que la porte s'est fermée, il était trop tard. Ce n'était plus le temps de se préparer. Dieu, dans sa grâce, nous donne le temps. Dieu, dans sa grâce, déclare qu'il va venir. Même si les gens disent que ça n'arrivera pas, c'est pas ce que les gens disent qui va arriver. C'est ce que Dieu déclare qui va arriver. C'est pas ce que le monde peut dire. C'est pas ce que les gens peuvent dire. Mais c'est ce que Dieu a déclaré qui va arriver. Notre responsabilité à nous n'est pas de s'imaginer si ça va arriver ou pas arriver. Notre responsabilité à nous, c'est d'être prêt. Quand cela arrive, ce n'est plus le temps de se préparer. C'était avant que l'on doit le faire. C'est maintenant que l'on doit le faire. Dans Luc chapitre 21, verset 34, se dit, prenez garde à vous-même de craindre que votre cœur ne s'appesantisse par les excès de table, de boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. En fait, l'idée du texte, c'est prenez garde à vous-même. Vous savez, ceci, notre pire ennemi pour le retour de Christ n'est pas les gens qui nous environnent. Ce n'est pas nos voisins, ce n'est pas les personnes, ce n'est pas nos patrons, ce n'est pas les gens, ce n'est pas la société, c'est nous-mêmes. Que vos cœurs ne s'appesantissent, deviennent chargés, surchargés, de toutes sortes de choses qui ne devraient pas être chargées et surchargées. C'est peut-être le temps que nos cœurs trouvent une légèreté. Il est peut-être le temps, alléluia, justement, d'avoir saisi la paix de Dieu, de ne pas être chargé et surchargé. Il est peut-être le temps, dans nos priorités de vie, de savoir et de décider de ne plus être chargé et surchargé. Ça dit que vos cœurs ne s'appesantissent, que le jour vienne à l'improviste, que ça vienne sans que tu t'en aies préparé, comme un filet qui viendra, qui semblera impossible d'y échapper. Mais le texte dit que si donc, vous on veille et on prie en tout temps, alléluia, cela va nous arriver, cela va nous aider, et ça dit que vous ayez avoir la force d'échapper. Alors, ça veut dire échapper au filet, au jour de destruction, pour entrer, pour nous trouver debout devant le Fils de l'homme. Cela nous dit, en fait, se trouver debout, c'est l'idée de qui signifie être prêt. Se trouvant debout devant celui qu'on va paraître. Il est le temps, alléluia, de se rappeler, de réaliser l'importance de vivre pour lui, de marcher avec lui, de vouloir lui plaire et le servir comme Dieu veut qu'on puisse le servir et accomplir. Cela va être mon troisième point. Mais juste avant, frères et sœurs, réalisons les temps dans lesquels nous sommes. Soyons prêts. Vous savez ceci, ça peut être maintenant. Ça peut être cet après-midi. Ça peut être la semaine prochaine. Je ne sais pas quand l'heure est le jour. Mais notre responsabilité, c'est d'être à l'heure. c'est d'arriver au bon moment. Alléluia! Notre responsabilité, c'est de ne pas être en retard. Des fois, on voit le retour de Christ comme un laps de temps. Mais vous savez ceci, le retour de Christ n'est pas comme un laps de temps. C'est à un moment donné que quand Dieu viendra chercher son Église, ça sera le moment dans lequel Dieu, alléluia, a choisi. C'est pas dans un laps de temps. Il n'y aura pas dans les vierges folles et les vierges sages, il n'y a pas eu un laps de temps. Dans notre société, tout est relatif présentement. Tout est relatif. Je vais vous dire qu'avec Dieu, alléluia, son retour n'est pas dans la relativité. Elle est dans un moment donné, dans un temps précis, dans un instant donné. Et alléluia, on doit voir le futur de ce qui est devant nous comme un temps pour se préparer, du maintenant, pour se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Troisième chose dans laquelle on doit réaliser l'urgence dans laquelle on vit et dans laquelle on ne devrait pas perdre notre temps, c'est dans ce que Dieu nous appelle à être et dans ce que Dieu nous appelle à faire. Nous devons réaliser l'importance de ce que Dieu nous appelle à être. Dans Jérémie chapitre 18, le verset 2, alléluia, Dieu va parler à Jérémie dans le texte et va amener Jérémie dans une illustration très claire d'un potier, alléluia, et de ce que Dieu veut être ce potier-là pour chacun d'entre nous. Ça dit, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussissait pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire, de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu lui veut accomplir. Et la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Il est le temps de ce que Dieu puisse faire avec nos vies et qui on est, ce qu'il veut faire. Et là, je ne parle pas d'abord et avant tout d'accomplissement, d'action ou de faire, mais je parle, alléluia, d'être ce d'être ce que l'on devrait être. À Sainte-Agathe, on avait la bénédiction d'avoir des artisans. Peut-être vous avez déjà entendu parler de 1001 pots à Val-David. C'était des gens, ou plutôt la dame venait à l'église, c'était des artisans, elle était sourde. Et j'ai eu l'opportunité d'aller dans l'atelier dans lequel ils étaient, de les voir travailler et accomplir. Et vous savez, avant qu'une tasse devienne une tasse dans laquelle on verse un thé et qu'on est capable de boire, avant de faire ce qu'elle doit faire, elle doit être quelque chose. Elle doit être une tasse. Dans la main du potier, la terre qui était là, je me rappelle une image très claire, de voir cet homme-là prendre une motte d'argile, de la déposer sur le tour et de commencer à voir et à faire et de commencer lorsque moi, il a jeté, je me suis posé la question, qu'est-ce qui va en arriver de ça? Mais dans la pensée de cet homme, il savait déjà ce qui était pour arriver. Moi, je le découvrais. Les autres autour de nous découvrent ce que Dieu nous appelle à être. Mais Dieu sait ce qu'il veut faire et veut accomplir. Nous devrions être dans sa main, alléluia, comme cette argile dans la main du potier, être capable de lui offrir nos vies, nos rêves, qui on est, notre futur, non pas seulement dans nos accomplissements, dans un travail futur, mais dans qui nous sommes réellement. Seigneur, fais de ma vie qui je suis, intérieurement, Seigneur, de ma personne, ce que tu veux que je sois devant toi. Avant même de servir et d'accomplir, Dieu nous demande, et Dieu veut être ce potier, que l'année 2020 en soit une pour toi, où Dieu formera à l'intérieur de toi, dans ta vie, dans qui tu es, alléluia, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut accomplir. Dieu le fait dans la vie de certains hommes, certaines femmes, à l'intérieur de la parole. Il a formé Pierre, alléluia, avant qu'il devienne quelqu'un qui proclame le message. Dieu voulait faire de lui un disciple. Dieu voulait former un disciple. Dieu voulait les avoir avec lui, le texte dit, Alléluia. Et le texte dans le mot, c'est l'idée faire, façonner, comme un artisan, créer quelque chose. Dieu peut faire avec qui tu es ce que jamais personne n'a pensé, alléluia, qu'il pouvait faire avec toi. Avant que David devienne un roi, il a dû être un homme, alléluia, que Dieu a dû façonner. Avant que Moïse devienne un libérateur en Israël, il a dû être 40 ans dans un endroit pour que Dieu façonne sa vie et son cœur. Trop souvent, on regarde que le faire et l'accomplissement. Et on oublie de ce que Dieu nous appelle à être. Parce que bien souvent, ce qui va influencer ce que Dieu va faire, va vouloir faire avec nos vies, c'est ce que Dieu a fait d'abord et avant tout avec qui on est. Dieu est celui, alléluia, à qui on veut, bien sûr, qui désire qu'on puisse le servir, lui. Que notre vie le serve. D'abord et avant tout, pas d'abord et avant tout en action, mais de qui on est. Bien sûr, dans notre relation avec lui, dans notre communion, dans notre intimité avec lui. D'être des adorateurs, d'être des hommes et des femmes qui vont le louer, l'adorer, que nos vies lui donnent une gloire, que nos vies lui rendent honneur. Marie, avant de prendre soin de votre épouse, vous devez être un mari. Avant d'accomplir une action d'un père envers un fils ou une fille, Dieu nous appelle d'être un père. Avant même que Dieu accomplisse une action à notre égard, il est ce qu'il est. Ce matin, dans la louange, on chantait de la grandeur de qui Dieu est, comment il est un père pour nous, comment il est un grand Dieu, un grand Seigneur. Avant que Dieu, alléluia, crée les cieux et la terre, il était le Dieu Tout-Puissant. Dieu veut faire de nous ses enfants, d'avoir une relation, de l'exalter, et après cela, Dieu nous demande de pouvoir faire et accomplir. Mais souvent, notre regard est posé sur un geste. En fait, alléluia, nos regards sont posés, ou plutôt ce que l'on considère, c'est une action posée. J'aimerais vous dire, à vous qui jouez de la musique à l'intérieur de cette église, bien sûr, nous apprécions votre talent. Mais je veux vous dire que de jouer de la musique, c'est pas servir Dieu. Servir Dieu comme vous avez fait ce matin, c'est adorer Dieu avec le talent que Dieu vous a donné et d'amener le corps à adorer et à exalter. Il y a des milliers de personnes qui sont des excellents joueurs de musique dans notre société, qui sont des meilleurs, des gens qui peuvent faire beaucoup mieux que tout ce qu'on peut faire. Et je ne suis pas en train de dire que vous ne donnez pas une qualité, au contraire. Vous êtes des hommes et des femmes de qualité, avec des dons, des talents que Dieu vous a donnés. Mais lorsqu'on est là à jouer, alléluia, d'un instrument, du drum, du piano, de la guitare, qu'on est en train de chanter, en fait, notre but, alléluia, notre service, en est d'un, d'adoration. En étant d'élever la gloire à personne de Dieu. Lorsqu'on est à l'éducation chrétienne, et qu'on est là, alléluia, on n'est pas en train de raconter une histoire, on est en train d'instruire dans les voies de Dieu. Lorsqu'on prend soin des enfants en bas, on n'est pas en train de faire du gardiennage d'enfants. On est en train, alléluia, de veiller sur les êtres que Dieu nous a prêtés pour un instant. Lorsqu'on est en train de préparer le repas du Seigneur, alléluia, on n'est pas en train seulement de mettre du jus dans des coupes et de briser le pain, mais on est en train, alléluia, de mettre en place et de faire ce que Dieu nous demande de faire, d'aller, de faire ceci en mémoire de lui. Votre service n'est pas de mettre du jus dans des coupes, mais votre service, c'est d'amener le corps à faire ceci en mémoire de lui. Jésus va dire que ce que l'on fait au plus petit entre les siens, c'est à lui qu'on le fait. Lorsqu'on fait des repas à l'intérieur de l'église, lorsqu'on fait du café comme ce matin à l'église, on n'est pas en train, lorsque vous êtes en train de faire le café, bien sûr, on peut dire, je suis en train de servir Dieu, je suis en train de faire du café. Cela est vrai. Mais je pense que c'est plus grand que de servir un café. Je pense, alléluia, que c'est de donner une opportunité au corps de s'édifier ensemble, de partager ensemble, de se tenir ensemble, de glorifier Dieu ensemble, de se tenir les uns avec les autres, ne connaissant pas ce qu'un frère ou une sœur a pu vivre durant la semaine. Dieu nous appelle, alléluia, à être capable d'accomplir, de faire, de servir, mais que le service est en son honneur et à sa gloire. On a besoin d'accomplir et de servir avec fidélité et de reconnaître comment Dieu est celui qui le fait à sa gloire. Dans Éphésiens, chapitre 2, le verset 10, ça nous amène à penser que des œuvres que Dieu a préparées d'avance, inquiétons-nous pas de ce que Dieu a préparé. Ayons plutôt un cœur pour les mettre en pratique. Dieu est celui qui le fera, qui accomplira, qui ouvrira les portes, qui donnera la possibilité, le temps voulu. Quand l'œuvre y sera le temps, les choses arriveront. Soyons fidèles et persévérants, désirant donner la gloire à notre Dieu. On n'est pas là pour nous servir pour notre propre gloire. On n'est pas là pour se faire un nom. Servir Dieu, c'est élever Dieu. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 9, il nous est raconté l'histoire de cet homme qui était un aveugle né depuis sa naissance. Et alors que cet homme se retrouve là, alléluia, j'ai un frère qui me partageait ce texte-là la semaine dernière, ça m'a tellement béni, j'ai voulu, et ça allait tellement avec ma pensée de maintenant. C'est dit à ce moment-là que lorsque Jésus a vu cet homme, cet aveugle de naissance, Jésus, son regard s'est posé sur cet homme. Et ses disciples lui ont posé la question ceci, « Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pourquoi cet homme est-il aveugle? Est-ce que c'est à cause du péché de cet homme ou de ses parents? » Pour qu'il soit né aveugle. Souvent, on ramène les choses à ce qui est de l'être humain. Mais Jésus ouvre une dimension. La réalité, c'est que cet homme était un pécheur. La réalité, c'est que ses parents étaient un pécheur. La réalité, c'est que vous et moi sommes des pécheurs. Mais Jésus est en train d'ouvrir une dimension tellement plus grande que les choses n'ont pas à faire avec l'homme lui-même, mais plutôt avec qui Jésus est. Ça dit, le verset 3, Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua la boue sur les yeux de cet aveugle. Et bien sûr, vous pourrez lire la suite à la maison. Jean chapitre 9, verset 1 suivant. Cet homme a été guéri. En fait, le but était la gloire de Dieu. La vraie raison, c'était le ciel. Et Jésus dit ceci, j'aime, et ça va avec la pensée que j'ai amenée tantôt. Ça dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour. C'est moment, c'est le temps. Ce moment-là, c'est le temps de rendre gloire et de glorifier. J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre. On a besoin, frères et sœurs, d'être capables de saisir ce que Dieu a pour nous, ce que le Seigneur veut accomplir à l'intérieur de nos vies. Réalisons les temps dans lesquels Dieu nous donne. Et je pense que 2020 est une année où il ne doit pas y avoir de niaisage. Je pense que c'est une année, alléluia, que dans notre vie avec Dieu, dans nos relations, Seigneur change et transforme, ce qui nous donne de perdre du temps dans nos relations. Notre relation avec toi, on va jouer le dernier chant qu'on a joué ce matin. Dans notre relation avec toi, Seigneur, donne-nous de prendre conscience, peut-être qu'on a négligé en 2019, peut-être que tellement de choses nous ont hameçonné dans l'année 2019, qu'on a arrêté de saisir et de prendre du temps avec le Seigneur. Dans notre relation avec ces gens, ces personnes que Dieu place à nos côtés, notre conjointe, nos enfants, les personnes, et bien sûr, nos relations, c'est aussi les gens de l'extérieur. Il est le temps de réaliser l'importance de partager la bonne nouvelle dans le temps dans lequel on est. C'est le temps de briller à notre travail. C'est le temps, alléluia, de partager la bonne nouvelle aux gens que Dieu place sur notre route, d'être ces témoins qui sont envoyés. Je suis content d'apprendre des initiatives comme la semaine prochaine. que chaque jour, alléluia, on puisse accomplir ce que Dieu nous appelle à accomplir dans ces relations-là, dans lesquelles Dieu nous place dans notre quotidien avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Dans notre vie avec Dieu, alléluia, dans notre service et pour le retour du Seigneur. Il est peut-être temps de se rappeler que Dieu viendra chercher son Église. Et non seulement de le voir comme un espoir. Vous savez, ceci, ce qui m'interpelle le plus, c'est pas d'avoir hâte au retour de Christ. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est de m'y préparer. Que j'ai hâte ne changera pas le temps où Dieu va venir le faire. Mais d'être conscient de m'y préparer, alléluia, ça va me donner d'être prêt quand le jour va venir. Je vais vous dire ceci là, puis comprenez dans le sens dans lequel je vais le dire. Il est peut-être temps d'arrêter d'avoir hâte. Et il est peut-être le temps de plus réaliser l'importance de se préparer. Alléluia. Vous savez ceci, j'ai hâte d'être avec le Seigneur, pas parce que je suis malheureux sur la terre et que ma vie va pas bien. J'ai hâte d'être avec Dieu, alléluia, parce que je le verrai face à face. Parce que c'est avec celui pour lequel je me suis préparé. On est là à se préparer un an d'avance pour un mariage. Qui coûte des milliers de dollars. C'est correct. Ou pas des milliers, peu importe. C'est correct de se préparer. Je suis en train de préparer ma vie pour une éternité. Pas pour une journée. Pas pour un soir. Pas même pour une vie sur la terre. Mais pour une éternité avec Dieu. Il est peut-être temps, alléluia, que j'arrête de vivre dans l'urgence. De quand j'ai hâte qu'il arrive, mais de vivre dans l'urgence de ma préparation. Pas dans la crainte. Pas dans la peur. Pas dans l'inquiétude, pas dans l'activité qu'il faut tout faire. Je pense que de vivre dans l'urgence de Dieu n'est pas de courir de gauche à droite. C'est de vivre une intimité, une communion avec Dieu. L'urgence du monde me presse. L'urgence du monde me donne de tout accomplir, de faire tout ce que je pense que je devrais faire, tout ce que les gens voudraient que j'accomplisse. Mais l'urgence de Dieu me donne de faire les bonnes choses et de prendre du temps avec lui. Et Dieu est celui qui veut le faire, qui veut l'accomplir. En terminant, on va se tenir debout ensemble. Je vais faire un appel en avant ce matin. Si tu as juste le goût aujourd'hui de dire « je veux venir devant le Seigneur », mais j'aimerais te poser quelques questions aujourd'hui avant. Qu'est-ce qui doit changer en moi ou en toi pour connaître la chose nouvelle? Dans Isaïe, chapitre 43, le verset 19, ça dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? » Qu'est-ce qui doit changer en moi pour connaître la chose nouvelle que Dieu veut faire en 2020? Qu'est-ce qui doit changer en moi pour connaître Dieu plus intimement? Qu'est-ce qui doit changer en moi pour vivre cette relation encore meilleure avec ma conjointe? Qu'est-ce qui doit changer en moi, alléluia, pour être meilleur, pour être ce que Dieu m'appelle à être? Qu'est-ce qui doit changer en moi pour être ce que Dieu m'appelle à être? Ou encore, qu'est-ce que je dois faire de différent, alléluia, pour que je sois ce que Dieu veut que je sois? Pour être un meilleur serviteur, qu'est-ce que je dois faire de différent pour me préparer pour le retour de Christ, être prêt? Qu'est-ce que je dois faire de différent? Qu'est-ce que je dois délaisser? Qu'est-ce que je dois tasser? Quelles devraient être mes priorités? Quelles doivent être mes décisions à l'intérieur de ma vie? Alors ce matin, alors qu'on va chanter ce chant, si tu as juste le goût de venir devant le Seigneur et de dire, Dieu, aujourd'hui, je veux vivre dans cette urgence-là. Cette urgence de ta paix, ta joie Mais cette urgence, Seigneur, de mes relations, cette urgence du retour, cette urgence, alléluia, d'être ce que tu m'appelles à être et te servir. Tu veux dire, Seigneur, je veux placer ma vie devant toi aujourd'hui. Je veux t'encourager à sortir de là où tu es et d'aujourd'hui de faire un engagement avec le Seigneur, avec juste simplicité, et de dire, Dieu, aujourd'hui, je veux être juste devant toi pour t'offrir cette nouvelle année, que tu puisses me changer, me transformer et voir ta gloire à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Chantons ce chant ensemble. Alléluia. Dans une portion de ce chant, ça dit d'être touché à nouveau, d'être visité à nouveau. Peut-être que c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, de consacrer nos vies, de dire, Dieu, avec toi, je veux dans cette nouvelle année, dans ce qui est devant moi, de ce que tu as placé devant moi. Peut-être je ne connais pas ta vie présentement. Peut-être tu as mis des plans, des projets. Permets à Dieu, alléluia, d'être là. Permets au Seigneur, maintenant, de diriger tout ça. De prendre la direction de tout ça. Et si tu veux t'avancer, fais-le ce matin devant le Seigneur. Chantons ensemble.